prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Pierre-Anne Forcadet, je suis historien du droit. Je vais vous parler de mes recherches en histoire de la justice médiévale et la publication en 2018 de ma thèse de doctorat sous le titre « Conquestus fui domino regi, le recours au roi d'après les arrêts du Parlement de Paris 1223-1285 chez de Beaucard », ouvrage pour lequel j'ai reçu la première médaille de la Commission des Antiquités de la France sur approbation de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et ce dont je suis très honoré. Donc ce travail, comme tout doctorat, doit beaucoup à un parcours. J'ai commencé en master à l'université Paris 2, sous la direction du professeur Albert Rigaudière. En réalité, à travailler sur Pierre Dubois, qu'on appelle légiste, à l'époque de Philippe le Bel, et ce qui d'ailleurs a donné lieu, ce qui pourrait intéresser les auditeurs, à la publication au début de cette année aux Belles Lettres, d'une traduction et d'une édition et des commentaires des œuvres de cet homme qui parle de croisade, qui parle de différentes choses. Et donc dans la foulée, avec le professeur Rigaudière, mais en remontant un peu dans le temps, j'ai commencé à travailler, à m'inscrire en thèse pour étudier les légistes de Saint-Louis, un peu sur le modèle du grand Jean Favier qui avait écrit un article magistral sur les légistes de Philippe le Bel, catégorie un petit peu filandreuse pour montrer qu'il y a des hommes, des spécialistes qui écrivent la loi et qui ont déjà été repérés d'ailleurs même au XIIe siècle sous les règnes de Louis VII ou Philippe Auguste, mais qui semblait pas très étudié sous le règne de Saint-Louis, important s'il en est. Donc c'était un travail de prosopographie, d'étude un peu des hommes, et que finalement j'ai exploité par ailleurs en faisant une prosopographie, mais des premiers juges à l'université. Et très vite, je me suis dirigé plutôt vers la justice que vers l'étude de la loi. Et puis, bon, le professeur Rigaudière a fait valoir ses droits à la retraite, et j'ai continué mon doctorat avec le professeur Corinne Leveleux Texeira à Orléans, mais surtout entre-temps. Je pense vraiment qu'un travail d'historien, mais de thèse en particulier, c'est la rencontre avec une source. Et je suis un peu tombé dans ce qu'on appelle communément les olimes, hein, du nom autrefois en français, du nom du premier mot d'un des premiers registres. Et sous ce nom un peu barbare, en réalité, ce sont les premiers arrêts rendus par la cour du roi, par le roi parfois en personne, hein, s'agissant de Saint-Louis, de moins en moins après lui. Et son entourage. Donc c'est une source vraiment exceptionnelle qui est côté X aux Archives nationales, où pour ma période, j'ai la chance que c'était en partie édité au XIXe siècle. Pas très bien d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'une nouvelle édition, voire une traduction en français, puisque évidemment ce sont des sources en latin, soient faites. Mais donc il s'agit de environ, pour la période que j'ai étudiée, 3000 procès pour le milieu du XIIIe siècle. Donc c'est une source vraiment particulière qui est très différente des autres sources de l'époque, comme la fameuse vie de Saint-Louis de Joinville, par exemple, ou des coutumiers, ou du droit savant, hein, du droit de l'université de l'époque. Alors c'est, bon, évidemment, avec Michel Foucault, on peut difficilement dire que c'est une source qui est plus objective que ça. Il y a un discours qui ressort de ces officiers publics, de ces notaires, de ces greffiers, de ces magistrats. Mais néanmoins, c'est un texte qui n'est pas forcément facile d'abord, qui est un peu sec, un peu répétitif, parfois très, très lacunaire. Mais ce qui est formidable dans ces arrêts, dans ces procès, c'est que c'est très concret. C'est qu'il y a vraiment des affaires, il y a de la chair, il y a des noms, il y a des centaines de noms d'ailleurs, il y a de la géographie, je pense de la généalogie, de la philologie. C'est une source qui n'est pas inconnue, hein, loin de là. Hein. Je ne suis pas du tout le seul ni le premier à l'avoir étudiée. Il y a notamment Jean Hilaire qui a beaucoup travaillé dessus. Mais néanmoins, c'est une source qui, je pense, est vraiment sous-exploitée et qui pourrait servir aux historiens et donc même aux géographes, aux généalogues. Donc il y a vraiment, il y a des histoires, il y a des procès plus ou moins intéressant, mais il y a de la chair. J'ai retravaillé il n'y a pas longtemps, ça me revient sur l'histoire d'une jeune fille qui est enlevée par son oncle, qui veut la marier de force. Donc on sent vraiment l'histoire et comment. Alors parfois on n'a pas la fin de l'histoire, malheureusement, et c'est là que c'est parfois très frustrant, mais comment en l'occurrence la cour du roi envoie le bailli récupérer la jeune fille et la sortir des griffes d'un mariage forcé. Donc c'est ce genre d'exemple qui est tout à fait intéressant. D'affaires qui viennent, il faut le noter, quasiment de toute la France, même parfois de Belgique. J'ai des affaires, une affaire qui vient de Gand, par exemple, qui viennent en priorité évidemment du domaine royal, c'est-à-dire de l'Île-de-France, et de la Normandie déjà à cette époque-là, mais y compris vraiment de l'ensemble du royaume, y compris des procès contre le roi d'Angleterre dans le sud-ouest de la France. C'est des procès qui sont soutenus évidemment en priorité par des gens d'ascendance noble et parfois des affaires extrêmement importantes, des comtés entiers qui sont mis en héritage, mais aussi des affaires à l'instar de celles dont j'ai parlé tout à l'heure ou de beaucoup d'autres, beaucoup plus modestes, qui sont soulevées beaucoup par des clercs aussi, mais aussi par des bourgeois, par des villes, par des maires, et puis par des femmes, par des juifs, par des serfs même, qui, alors évidemment de manière assez sporadique, peuvent s'adresser à cette justice. Alors évidemment, on peut montrer que la possibilité qu'ils le fassent, et c'est difficile à dire si en pratique ils pouvaient souvent le faire, hein. De même que l'exemple que je donnais tout à l'heure, il est certain que toutes les filles qui ont subi un mariage forcé n'ont pas pu saisir la justice. Mais c'est néanmoins ouvert, c'est-à-dire que l'accès à la royauté et à la justice royale, comme Joinville en parle avec cette fameuse allégorie, mais qui est très crédible, hein, de l'accessibilité de Saint-Louis sous son chêne, c'est une réalité, je pense. Bon, c'est l'aspect un petit peu social, finalement, de mon travail, histoire sociale, je veux dire, mais évidemment, c'est un côté juridique qui est très important et qui m'intéressait en tant qu'historien du droit, hein, de la section 3 du CNU. Et c'est ce qu'on trouve aussi, évidemment, dans cette source, un vocabulaire. Alors, inspiré beaucoup du vocabulaire du droit romain, hein, ces magistrats, j'ai pu montrer avec d'autres, ils sont beaucoup passés par l'université, mais c'est quelque chose qui fait un peu débat. Je pense néanmoins que, comme du reste aujourd'hui, ils ont suivi une formation très théorique, très, très savante, très importante, et puis ils s'en sont beaucoup émancipés dans leur activité de toutes ces spéculations savantes de l'université. Et je pense, et avec le professeur Jean Hilaire d'ailleurs, que ce sont vraiment de très grands juristes, très créatifs, et qui c'est ce qui ressort de cette source, une procédure qui est vraiment très élaborée, très intéressante, et que avec d'autres on a étudié. Un exemple parmi d'autres, un collègue et ami, Lim Tuttle, qui a travaillé sur sa thèse sur toute la procédure pénale et la politique pénale qui se met en place à cette époque là a étudié par exemple ce qu'on appellerait aujourd'hui séquestre, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque la main du roi, c'est-à-dire la possibilité de garantir les droits des parties le temps du procès, de les mettre vraiment sous séquestre. Et donc, il y a toute l'ambiguïté, c'est qu'il y a la volonté d'avoir une procédure qui protège les droits des parties, mais à la fois c'est la main du roi, et à la fois évidemment la main est très symbolique, c'est les régalias, et à la fois c'est la souveraineté aussi qui se met en place. Donc c'est une procédure, je ne rentre pas dans le détail, mais qui peut beaucoup surprendre, hein, finalement, un esprit, un juriste actuel, hein, qui beaucoup ont le tort de penser que tout a été inventé avec les Lumières ou avec Beccaria, par exemple, pour le principe de l'égalité. Notre ami Axel de Goix a montré qu'on peut trouver des traces au XIVe siècle de ces principes de non-rétroactivité de la loi, pardon, de l'égalité, en réalité de droit de la défense, des incidents de procédure, des choses extrêmement techniques qui sont vraiment inventées à cette époque-là. Alors plus connu, plus général, et évidemment très important, c'est la procédure de l'enquête, hein, inspirée de l'inquisitoire. qui remplace le duel, ces ordalies, ces duels un peu irrationnels. Et là aussi, on voit dans ces actes une procédure très, très rigoureuse de témoins, de pièces, évidemment une procédure aussi de plus en plus écrite. C'est donc toute cette pratique et ces éléments vraiment très juridiques et très émouvants à retrouver 800 ans après et qui finalement ont beaucoup inspiré la procédure actuelle. Donc voilà, c'est une thèse qui en réalité vient d'une source et pas d'une idée préconçue, puisque finalement c'est à partir de ces olimes que j'ai tiré cette idée du recours qui donne le titre à ma thèse, c'est-à-dire d'une autorité finalement qui vient un peu d'en bas et pas d'en haut en réalité, inspirée aussi d'un historien qui s'appelle Smail et qui parle de consommation de justice et qui a montré qu'il y a véritablement une stratégie chez les requérants. Il y a un côté qui fera un peu polémique, mais que j'appelle presque libéral, c'est-à-dire que le justiciable qui s'y entend le mieux, qui évidemment a les moyens intellectuels, matériels plus favorisés, peut saisir la justice, choisir la justice du roi plutôt que les autres justices, hein, puisque c'est véritablement aussi l'enjeu de la justice au Moyen-Âge, c'est des justices concurrentes. Donc c'est cette idée d'une co-construction d'une institution qui n'a pas d'acte de naissance, puisque c'est le nom que j'ai donné dans le titre de ma thèse. En réalité, à l'époque, on parle plutôt de cour du roi, qui se démembre de l'ancienne curia regis, mais à partir de ces sessions in parlamento, où on parlemente, et ça devient donc, au XIVe siècle, on peut vraiment avoir le mot substantif, le parlement, et c'est vraiment ce parlement qui apparaît à cette époque-là, et en réalité, donc, un peu une fonction qui crée l'institution, en tout cas, selon moi. Bon, le catalogue ensuite de toutes les affaires qui peuvent se succéder serait fastidieux, mais quelques illustrations pour conclure. D'abord, un contentieux très important qui occupe une bonne partie de ces arrêts, c'est une espèce de mise en abîme, justement. C'est ce rôle de structuration de la justice que va avoir la Cour du roi, réglant les problèmes de compétences qui sont soulevés sans arrêt. Hein. Typiquement, deux seigneurs voisins se disputent la justice d'un chemin, d'un voleur, deux abbayes, une abbaye et une mairie se disputent la justice et ils s'en remettent à la cour du roi pour régler leur litige. Et c'est déjà quelque chose, encore une fois. C'est évidemment faire échec à la violence, qui pourrait, qui a sans doute pu régler ce genre de litige à l'époque aussi, mais c'est s'en remettre au roi et à sa cour pour trancher ça. Autre aspect qui est vraiment aussi tout à fait passionnant, c'est que ça peut être contre le roi lui-même, contre sa justice, contre sa compétence, qui, il faut bien le dire, localement, sans doute, les baillis empiètent, grignotent comme ça les justices des autres seigneurs. Mais très généralement, et à partir des enquêtes qui sont menées en 1247 et qui ont été très bien étudiées par une autre collègue et amie, Marie de Joux, les abus de la justice royale, de tous les agents du roi, est commis depuis plusieurs décennies. Saint-Louis, avant de partir en croisade, demande à ce qu'il soit... à ce qu'il soit réparé, à ce qu'on, en tout cas, on demande à quiconque dans tout le royaume s'ils ont à se plaindre de la justice du roi. Et donc le Parlement, c'est vraiment à la même époque, dans les années 40, 50, 60, qu'il se fixe. Je pense est très lié avec cette procédure, les abus, les amendes, les excès, et même la corruption, ce qui donnera la grande ordonnance de 1254, des agents du roi sont vraiment encadrés. Donc on a pu parler finalement de mise en place d'un état de droit au XIIIe siècle. Et une des choses que je suis fier d'avoir montré, c'est qu'on commence à parler en français, à écrire en français à cette époque-là. Et quand apparaît le mot sovereign, souveraineté, vraiment dans ces années-là, dans les sources judiciaires, mais aussi dans les sources coutumières et dans l'entourage, hein, beaucoup du roi, le fameux beau manoir, par exemple, c'est pour désigner cette supériorité de la justice royale, c'est-à-dire cette capacité à trancher, comme je le disais, les litiges de compétences, et évidemment surtout cette capacité à trancher en appel, puisque c'est aussi... Et je parlais là aussi des garanties procédurales, ce double degré de juridiction, cette possibilité de s'adresser à la cour du roi pour casser le jugement qui d'une mairie, d'un seigneur, plus ou moins important. Et puis, évidemment, il y a aussi la grâce royale, il y a l'extrajudiciaire. Alors, les historiens des facultés de lettres, comme on dit chez les historiens des facultés de droit, parlent parfois aussi d'infrajudiciaire, c'est-à-dire la médiation, la transaction, l'arbitrage. Je pense que tout ça fait partie de la justice en tant que telle et que c'est une conception beaucoup plus large, peut-être que celle qu'on a aujourd'hui, une justice un peu institutionnelle aujourd'hui, qu'il faut avoir pour le Moyen-Âge, hein, la justice est conçue à l'époque comme la paix en général, en réalité. Et donc, tous ces domaines sont aussi utilisés, sont aussi saisis par ces arrêts, enfin, par la cour du roi, dont témoignent ces arrêts. Alors, on est à une époque où le Parlement est pour le moment entièrement dévoué, évidemment, à la royauté, et pour cause, Saint-Louis siège assez fréquemment, évidemment, mais on sent en germe aussi les raisons de l'indépendance que le, puis les parlements prendront dans les siècles à venir, c'est-à-dire qui rendent la justice du roi, et par la suite, donc même en l'absence du roi. Et peut-être que quand le roi sera plus disponible physiquement et plus éloigné, en tout cas, c'est une des raisons qui causera, pour la fin de l'Ancien Régime, les différents troubles qui mèneront d'ailleurs sans doute la monarchie en grande partie à sa fin.